Cube Radio.
Salut, c'est Brigitte Noël. Je suis en compagnie de Félix Séguin. Félix, avant de commencer l'épisode, je pense que tu as quelque chose à nous raconter.
Il faut absolument pas manquer le grand reportage de notre bureau d'enquête, qui s'appelle aussi Narcos PQ, une version télé, si tu veux. Un reportage qui nous a amené au cœur de la guerre des cartels dans l'État de Guerrero au Mexique, qui nous a amené voir des anciens de la DEA à Washington, D.C., qui nous a aussi fait tourner plein d'entrevues à Montréal qui vont vous faire comprendre la narcoculture. Je vous conseille de ne pas le manquer.
Vous pouvez regarder le grand reportage Narcos PQ, qui est disponible en exclusivité sur Club Illico dès aujourd'hui. Cet épisode traite de sujets qui pourraient choquer certaines personnes. Soyez-en avertis.
La dernière fois où on a effectué une saisie aussi importante d'héroïne, ça remonte à 2014.
Alors, nouvelle saisie de drogue.
80 000 doses d'héroïne.
Cette présence accrue de fentanyl.
Les cartels de la drogue mexicains sont très bien implantés à Montréal.
Je m'appelle Brigitte Noël, je suis journaliste au bureau d'enquête de Québecor.
Et moi, je m'appelle Félix Séguin, puis je suis journaliste au même endroit. Saviez-vous que le Québec est la terre d'accueil de plusieurs des plus gros trafiquants de la planète? Savez-vous qui ils sont? Narcos, PQ, c'est là qu'on va les découvrir.
T'as pas de feu? Attends, j'en ai peut-être. J'en ai. Ça va.
Tout d'abord, on vous amène au pénitencier fédéral de Donnacona.
T'en es où?
T'en as-tu ou t'en as pas?
J'en ai.
Sept ans.
On voulait commencer par un narcotrafiquant qui a vraiment une histoire à lui très particulière, mais qui comprend tout ce qui se passe dans le monde interlope au Québec. On va rencontrer Stéphane Galarneau. C'est un rock machine.
OK, viens-t'en.
Les rock machines, pour la petite histoire, ce sont les ennemis jurés, enfin c'était pendant la guerre des motards, les ennemis jurés des Hells Angels. Mm-hmm. Il en reste encore une poignée au Québec. Galarneau en fait partie.
En faisait partie. Selon lui.
C'est vrai. Alors lui, dans sa vie de criminel, il a tout fait. Collecter des dettes d'extorsion lui-même. Il s'est promené au Mexique avec des dizaines de milliers de dollars pour aluminer ça au cartel. Il a vendu de la drogue. Il en a probablement consommé aussi. Bref, c'est probablement l'incursion la plus réaliste, honnête et franche qu'il m'a été donné d'entendre en interviewant Stéphane Galland.
C'est toi, Félix, qui m'avais appelé le soir d'avant pour me demander d'aller chercher Stéphane, qui sortait tout juste de prison. Merci.
De rien. C'est quand même toute une commande, hein, quand
ouais.
Tu te fais appeler
hey,
pour ça.
Qu'est-ce que tu fais demain matin?
Va donc à Donnacona chercher un gars qui sort d'une sentence pour avoir trafiqué des dizaines de milliers de comprimés de méthamphétamine. Vas-y donc, allez.
Fait que je suis allée avec plaisir. Donnacona, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un pénitencier fédéral. C'est à 30 minutes de Québec. Puis c'est un immense complexe, très à l'écart. C'est un peu caché au milieu de champs agricoles. Tu peux même pas y aller avec Google Maps, mettons.
C'est tough en dedans, en plus.
Ouais.
Des grosses sentences là-bas.
Le petit chemin qui mène au pénitencier est particulièrement lugubre. Tu sais, ça dit pas de caméra. T'as vraiment l'impression que t'as pas le droit d'être là. Nous, on arrive, puis Stéphane est déjà dehors, dans la neige, avec son sac, flanqué par du personnel correctionnel. Je pense qu'il avait l'air tellement content de nous voir, de quitter les lieux. Pis la première chose qu'il voulait faire, c'était fumer une smoke.
Moi, je comprends qu'il fumait comme un damné, parce que, dans le fond, Galarneau, il a 42 ans, il a passé 18 ans sur 42 en prison. Donc, si tu comptes son enfance, ce que ça nous dit, c'est qu'il a commencé à faire des sentences dès son tout jeune âge. C'est un jeune contrevenant. Après ça, il a été sentencé quand il était adulte. Donc, c'est plus que la moitié de sa vie utile qu'il a passé en prison, là. Parce que tu peux pas être en prison à partir de zéro année.
Ils veulent avoir des photos de moi quand je suis jeune. En as-tu vu ça?
C'est où déjà?
Les photos.
Et là, il y a une petite vie rangée. Il habite maintenant avec sa maman. Il dit que c'est un peu comme un retour à l'adolescence, à la vie familiale, et que maintenant, il a vraiment tourné la page sur sa vie criminelle. Puis il dit que la raison pour laquelle il a accepté de nous raconter ses histoires, ben c'est qu'il veut servir de modèle. Il veut décourager les jeunes ou tout le monde vraiment de prendre la même route que lui. T'sais, je dirais même qu'il semble être un homme repentant, mais il faut se dire que c'est un homme qui a eu un discours semblable jadis, qui a eu beaucoup de récidives quand même. Et c'est donc à prendre avec un grain de sel.
De l'avoir avec vous, là, regarder les albums comme ça.
Oh, ça fait chaud au cœur. C'est sûr qu'il y a beaucoup de choses qu'il n'a pas vues pendant tant d'années. Puis tout ça, puis aujourd'hui, bien là, moi, je peux réaliser que, oui, là, il est dans la famille, puis qu'il est avec moi, puis... Toi, là.
Mm. Est heureuse de partager ce moment-là, je pense.
Oui.
Parce que quand j'étais jeune, j'étais en centre d'accueil.
Oui.
J'étais pas là. Pas tout le temps là. Puis quand je commençais à faire mes conneries, mes coups.
Mais là, étant donné le contexte, est-ce que c'est dangereux pour lui de venir nous parler puis de nous raconter tout ça?
Écoute, je sais pas si son parcours criminel est vraiment derrière lui et qu'il n'y a pas un parcours qui se dessine devant lui. Je pense que les gens sont capables de juger là, le pour et le contre dans tout ça puis peut-être de le laisser tranquille. Par contre, s'il a dans la tête de continuer dans cette veine-là, puis qu'il est en train de parler aux médias, là, c'est une autre affaire. Là, c'est une autre paire de manches. Là, il va avoir des soucis. Là.
On est allé faire un tour de char pour jaser en privé. Puis il m'a raconté une foule d'anecdotes. Je vous avertis, il y en a qui sont choquantes. D'autres sont absolument dégoûtantes. Et il faut noter qu'on n'est pas en mesure de vérifier toutes ces allégations. Ça, c'est important.
Ouais, parce que souvent, là, les criminels, surtout ceux qui ont eu des grandes carrières criminelles, ils vivent dans deux choses. L'exagération parce qu'ils sont vaniteux et le mensonge parce qu'ils veulent pas se faire pogner. Alors, c'est oui, on peut pas tout vérifier parce que c'est quoi la part de vérité, c'est quoi la part de mensonge là-dedans. Moi, je pense que ce qu'il nous dit est probablement à un très haut pourcentage vrai.
Mais on vous laisse décider.
Oui, c'est ça.
OK, on commence par le début.
Comment veux-tu me donner un peu une biographie de comment tu t'es retrouvé dans tout ça?
Oui, biographie, ça a commencé, j'étais jeune, j'avais quoi, 17 ans? Non, plus jeune que ça, même 15 ans. 15 ans à peu près. Mais ça commence jeune, tu sais. J'ai fait du centre d'accueil de 7 à 18 ans, d'un foyer à l'autre. Puis, tu sais, ma mère travaillait beaucoup, mon père était absent, il était pas présent. Il était camionneur, puis tout ça. Puis, t'sais, je me tenais avec le monde de la rue, avec le monde interlope. Puis j'ai commencé comme ça à me battre, à vendre de la drogue. À 17 ans, j'ai mis la signature de mes parents. J'ai fait ma première importation.
Importation de quoi?
De hashish. J'étais allé en Jamaïque. J'ai fait ma première importation. J'ai gobé 1,2 kg. J'ai revenu ici. En revenant ici, ben, j'ai commencé à établir mon secteur à vendre des choses. J'ai commencé à me faire des clients. J'ai commencé à me pogner des mules. Des mules, c'est des personnes qui font ils transportent pour moi la drogue d'un pays à l'autre.
Fait que toi, t'as été mule une fois, puis là, t'as...
J'ai été mule une fois, puis j'ai devenu indépendant, comme tu l'appelles.
Ouais.
Puis j'ai commencé à pogner du monde, des danseuses. Tu sais, tu pognes pas du monde là, qui sont comptables, puis des choses comme ça. J'ai pogné des danseuses, des escortes, des gars de la rue, des...
Pour être mule pour toi.
Ouais, c'est ça.
Dans le fond, il bâtit son réseau de bouche à oreille, c'est ce qu'il nous dit. Pour lui, c'est une business, c'est une entreprise. Donc, il nous explique qu'il a commencé par trafiquer du hash, après de la coke, après qu'il s'est fait des contacts en Haïti, en Angleterre, en Irlande, au Mexique, en Russie. Aïe, aïe, aïe.
Fait qu'à ce moment-là, il est comme un pigiste du monde interlope. Il est un indépendant, comme il dit. Ça veut dire qu'il n'est pas encore affilié à un gang quelconque. Mais ses affaires roulent tellement bien qu'il tombe éventuellement dans l'œil du crime organisé.
J'ai su monter les échelons, puis j'ai su être hang-around. Après, j'ai monté prospect, puis après ça, j'ai monté full patch, rock machine, maman ring, à part entière.
OK, c'est comme du recrutement de hockey, là?
Style, oui. C'est un petit peu comme ça, mais avec beaucoup de confiance. Tu montes pas du jour au lendemain comme ça. Okay. Il faut beaucoup de confiance. Il faut vraiment que tu t'ouvres, puis que tu sois transparent. Tu as une assurance vie là-bas. C'est vraiment... Une business.
T'as une assurance vie?
Oui, t'as une assurance vie là-bas qui couvre des frais de funéraires si tu décèdes. C'est une assurance vie de 50 000
$. Mais il n'a pas voulu me dire avec quelle compagnie d'assurance il faisait affaire. Je lui ai demandé sans succès. Est-ce que tu savais toi, que les moteurs étaient organisés à ce point-là?
Oui. Tu te dises pourquoi?
Oui.
Oui.
C'est
oui.
Pour ça que je te pose la question.
C'est parce que dans toutes les conventions, exemple de clubs, là, les chartes des clubs, exemple les Hells Angels, pour prendre un exemple qu'on connaît bien et que moi je connais, ils doivent contracter une assurance vie dont le bénéficiaire est le club.
Mm.
Bon, ben, je veux dire, ça permet de payer plein d'affaires quand tu décèdes. Ça permet aussi d'engraisser la caisse du club que le trésorier va gérer. C'est comme ça. Ça a toujours été comme ça.
Mais les familles n'ont rien?
Ben, ils peuvent prendre deux assurances vie.
OK, ouais.
Donc, faut savoir une chose. Ils ont tous des fronts. Donc, peut dire qu'il est menuisier parce que l'assureur va lui demander qu'est-ce que tu fais comme travail. C'est sûr que s'il dit, ben écoute, moi je fais partie des Hells Angels, puis la semaine passante, on en a tué deux, puis la semaine prochaine, je sais pas si c'est moi qui va se faire tuer. Pas sûr que t'aies une assurance vie, right? Donc, ils ont des fronts. Donc, ils peuvent dire, ben moi je suis menuisier, c'est ça que je fais dans la vie. Puis voilà, tu sais, je suis en bonne santé.
Fascinant. Ouais. OK, on retourne à son initiation.
All right.
Mais,
fait que
parle-moi de ton initiation, si tu veux, avec les Rock Machines. Comment ça s'est...
C'est comme ça. À un moment donné, je suis arrivé dans un bar, puis tout ça, puis les gars ont venu me parler, puis on dit, ah, comme ça, t'es capable de rouler la neige, puis tout ça. Je dis, ouais, j'étais un bon déneigeur. Puis tu sais que les Rock Machines sont implantées à travers le monde, pareil. Le monde n'en parle pas, mais on a des chapitres un peu partout dans le monde. Fait que ça m'a demandé si j'étais capable d'amener des paquets en Russie puis en Hollande, où il y a des chapitres là-bas. J'ai dit que oui, j'étais capable.
Tu as réussi?
J'ai réussi à amener 70 kilos en Russie. Ça, c'est ce qui m'a fait valoir mes patchs. Là.
Fait que ça, c'est le genre d'épreuve que tu dois faire pour te mériter des patchs.
Oui, il y a certaines autres épreuves. Il y en a qui font que c'est plus le crime dur, la violence. Moi, je suis contre la violence. Je n'ai pas été prompt pour ça, là, ben. Parce que la violence, ça amène aucune business, ça amène aucun argent. Ça fait juste amener de la merde puis la prison, trois quarts du temps.
C'était comment le feeling de mettre ton jacket pour la première fois?
La première fois, j'ai mis mon jacket. C'était comme se sentir comme Batman ou Superman.
Ouais.
C'est comme je suis intouchable. Tu vois? Tu sais, je peux te dire, tu le crois puis tu le crois pas. Tu sais, c'est tellement travaillé pour, puis un coup que tu l'as, tu te sais rien que ça. Tu comprends ce que je veux dire, tu sais?
Ouais.
Puis d'un autre côté, c'est comme il n'y a pas personne qui va m'atteindre, tu sais. C'est pourquoi je me suis affilié, puis pourquoi j'ai devenu mentor, parce que j'avais comme... Oui, j'avais une famille. Ma famille m'aime, puis je l'aime au bout, tu comprends? Mais c'est comme... J'avais une famille dans la rue, tu comprends? Mm. Quand j'étais jeune, mais c'est les gars qui prenaient soin comme de moi. Ouais. Ma mère a toujours pris soin de moi, c'est pas ça que je dis, t'sais. Mais c'est comme... c'est d'un autre côté, tu sais, c'est comme... C'est comme des brothers, tu sais. C'est
un besoin d'appartenance.
C'est un besoin d'appartenance. Et puis la peau du gain est fort, tu sais.
OK, mais tu sais, pendant ce temps-là, lui, il a une blonde, il a des kids, des amis à qui il doit cacher son identité de moteur. Il doit mener une double vie. Fait qu'il passe ses journées comme peintre de finition, tireur de joints. Et le soir, il planifie, il organise, il rencontre ces gens du monde interlope.
Sauf qu'il fait quand même crissement plus de cash qu'un gars dans la construction, right?
Ouais.
Bon. Il fait combien?
Ça, il a pas voulu me le dire non plus. Il était un peu vague, mais c'était des gros montants.
C'est là que ça m'embête, ces affaires-là. Quand t'es rendu à parler de cash... Oh, à peu près, ouais. Peut-être, je sais pas. Hey, ça m'embête. À chaque fois que j'essaie de demander ça à quelqu'un, il y en a même qui disent « Ah, pas trop ». Mais tu sais, pas trop, je sais pas, là. Je sais pas c'est quoi, là, pas trop de cash, mais quand tu te promènes en Ferrari...
C'est plus que non pas trop de cash.
C'est plus que non pas trop de cash à nous autres.
Puis, OK, puis aussi l'affaire, il est tout le temps parti en voyage. Fait que comment il cache ça à sa blonde, à ses amis? Il vit des aventures assez hors de l'ordinaire, on va laisser nous le raconter.
Quelle sorte de choses t'as vu pendant tes années dans ce monde-là?
Il y a beaucoup de choses. Beaucoup. Je suis allé en Haïti, je suis allé donner 425 000 au président Jean Aristide dans le temps qu'il était président d'Haïti.
Pourquoi?
Juste pour te dire tellement que c'était parce qu'il était corrompu, c'était lui qui fallait donner l'argent, parce que tout détournement de container, il y avait un pourcentage d'argent qu'il fallait donner au président Aristide. exemple, que l'argent, j'allais le donner au président Jean Aristide.
En main propre?
Dans la même maison que lui, oui.
OK. Mais pas à lui?
Pas à lui, mais à son comme un conseiller presse, comme.
OK.
Style. Mais j'hébergeais dans sa demeure. Je l'ai vu, j'y ai donné la main. J'ai parlé avec lui.
Ouais. Fait que t'es certain que c'était à lui?
Ah, c'est à 100%.
Bon, lumière rouge, boum boum, ça scintille, ça s'allume trois fois, bip, 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 bip. Moi, là, que Stéphane Galarneau est allé donner quasiment un demi-million au président Aristide, c'est un peu fort de café. Mais en même temps, Aristide, ça
pas
fait
le
des
plus.
Années que les médias ouais. documentent à quel point il a vidé le pays de son argent en prenant les paiements de la corruption dans ses poches. Donc, est-ce qu'Aristide a été corrompu? Ça, je pense que c'est un état de fait.
Mm-hmm.
Est-ce que Galarneau a corrompu Aristide? Ça, c'est une autre affaire.
Découvrez le nouveau café érable Pacane de Nespresso. Une saveur en or. Un nouveau café d'exception enrichi à la perfection par l'érable et la pacane. Dégustez-le noir avec du lait ou glacé. Visitez une boutique Nespresso pour une dégustation.
Pendant que votre attention est centrée sur cette voix qui vous parle ici, ou encore là, tout près ici, très loin là-bas,
ou même très, très loin.
Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
Mais il m'a aussi raconté qu'il a fait affaire directement avec le cartel de Sinaloa, qui est ce cartel mexicain assez meurtrier avec des tentacules un peu partout dans le monde.
C'était comment tes interactions avec le cartel?
C'était difficile. La première fois, j'ai eu peur. Quand tu arrives au Mexique, tu as les lumières vertes. Les lumières vertes, c'est tu peux continuer. Puis les lumières rouges, tu arrêtes parce que tu te fais fouiller, tu comprends?
OK.
C'est comme ça que ça marche pour tout le monde quand ils vont au Mexique. La lumière est devenue rouge. Puis il y a des agents des. Parce que moi, ils m'ont dit tu vas porter une casquette des Yankees de New York.
Okay.
Que j'avais une casquette des Yankees de New York. Ça, c'était le mot de passe.
Ouais.
Fait que moi, je comprenais pas. Je pensais que c'était un taxi qui m'attendait puis que il était pour me reconnaître facilement. T'sais. Que j'avais quand même 500 000 US dans sous-valise. Puis là, quand je suis arrivé, la lumière est tombée rouge, j'ai paniqué parce que là, j'ai dit, je peux pas perdre cet argent-là, on va me faire tuer. Et ça, je me fais tuer, c'est fini, là. Puis là, quand ils sont arrivés, ils ont dit, toi, passeport, j'ai donné mon passeport, ils m'ont dit, OK, va-t'en sur le côté. Là, je te dis, même mes sourcils, je pensais pas que ça shakait, là, mais mes sourcils shakaient. J'étais moite. Ils m'ont dit, OK, viens-t'en. Je suis arrivé, c'était de l'armée, là. Habillé en soldat, là. J'étais embarqué dans une Econoline. C'est comme un Suburban.
Mm.
Puis deux, trois Suburban, un en arrière de l'autre. J'étais arrivé à l'hôtel, mais c'était comme une villa style à eux autres. Puis là, lui, il m'attendait là-bas avec un sourire.
Lui,
moi, je riais pas, là. Lui, c'était mon contact.
Okay.
Qui était là-bas. Puis
un semi-haut placé.
Ouais, un semi-haut placé. C'est sûr que je sais pas si j'ai rencontré le haut placé, haut, ou que j'ai. J'ai un téléphone, OK?
OK.
Je suis
dessus.
Allô?
Parce que, dans le fond, les cartels mexicains, si tu veux savoir à quel point c'est dangereux, dis-toi une chose, c'est qu'on vient de vivre l'année la plus meurtrière au Mexique. 30 000 meurtres.
30 000!
Principalement dû au cartel. Comment fonctionne le cartel de Sinaloa? C'est très simple. T'es dans leur chemin, ils te tuent. Ils font pas juste te tuer. Il y a de fortes chances qu'ils vont te démembrer aussi et envoyer des parties de ton corps comme étant maintenant des messages à ceux qui voudraient s'attaquer à eux. Donc, quand tu joues dans ces ligues-là, et je peux te le dire, là, moi, je reviens d'un tournage au cœur de la guerre des cartels, là, j'en ai vu. Des pieds dans des glacières.
Ouais, tu nous as envoyé des photos, merci,
c'était
Félix.
C'était gore, hein?
Ouais, c'était vraiment gore.
J'ai envoyé des photos, des pieds dans des glacières en face du sérieux de police, des gens qui sont mutilés, tranchés en huit. Ça, je l'ai pas vu. J'ai eu la vidéo de ça, des exécutions là, du cartel de Jalisco. Là, il y a trois gars là. Ils ont probablement vendu dans le mauvais territoire. C'est une exécution. Dans le fond, ils sont fusillés live Alors, tu sais, les cartels, juste te dire, c'est ça.
C'est dangereux. Mais juste pour mettre
mais
ça...
Mais c'est plus que dangereux.
Plus que dangereux.
C'est
moi, j'ai jamais... Félix Séguin s'emporte.
Non, mais j'ai jamais vu quelque chose de violent comme ça. Je savais, parce que j'ai tellement lu, tellement vu. Mais là...
De tes propres yeux.
Pour avoir été au milieu de ça, ta vie vaut juste rien.
30 000 morts au Mexique en l'année passée.
L'année passée.
Au Canada... En 2017, c'est les dernières données que j'ai trouvées, il y a eu 660 meurtres.
Ouais, ça.
C'est incomparable.
Écoute, quand j'étais à Acapulco, il y a eu 6 meurtres.
Pendant ton séjour?
En 48 heures.
Mon Dieu. OK.
Ouais.
Tout ça pour dire, Stéphane Galarneau faisait affaire avec ces gens-là.
Oui. Fait que c'est ça. On était rendu où?
Oui,
c'est ça. Je savais pas si c'était un haut placé, mais je sais que c'était un gars qui était quand même bien placé.
Parce qu'ils sont discrets quand même.
Ils sont très discrets. T'sais, vraiment discrets. Là. Je l'ai jamais vu. Après ça, ils m'ont donné 10 000 piastres en tips. Ils appellent ça un tip. Quand même, ils disaient ça. Je suis parti à la rue, ils m'ont dit, tiens, ton tip. Puis ils ont tous compté l'argent devant moi. S'il y avait manqué 100 piastres, je pense que je me faisais couper un doigt. Ils n'ont pas ri, là. Jusqu'à temps que l'argent était fini de compter. Quand l'argent était fini de compter, là, ils ont sorti un cigare, le cognac, puis ils ont dit « Où est-ce que tu vas aller? T'es un gars sérieux, t'es un gars honnête. »
Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Où est-ce que tu vas aller?
Ben, c'est parce que moi, je commençais mes vacances.
Ah, ils t'envoyaient en vacances.
Au style, ouais. Parce que je vais pas juste aller-retour.
Comme dans leur jet privé, ou?
Non. Okay. Eux autres, ils m'ont... Parce que de où est-ce que j'étais, tu peux aller, c'est... 1h30 d'Acapulco, puis c'est... Tu sais, Acapulco, Cancun, Mexique, c'est tout proche, là, tu sais.
Ouais.
Tout d'un côté de l'autre, fait que... Il m'a demandé où est-ce que je voulais aller, puis je suis allé dans une villa, mais une villa que jamais je me suis payé de ma vie, là. Un asti de villa, là. Tu sais, là, avec le gros yak, la grosse affaire, là. J'ai trippé, là, comme jamais j'ai trippé dans ma vie, là.
Ouais, c'est un peu comme un film, hein, tout ça, mais en fait, il a été très chanceux parce que ça, la chance aurait pu tourner en sa défaveur.
Oui. Mais pour donner un peu de nuance à tout ça, pour montrer que c'est pas toujours du bling et des bateaux, voici une anecdote complètement dégueulasse. Fait que, contexte, ça se passe à l'aéroport Pearson, à Toronto. Stéphane est de retour des Caraïbes avec un collègue, entre guillemets. Lui a gobé des drogues, son ami collègue, non. Mais on les soupçonne, avec raison, d'avoir ingéré des substances pour les faire entrer au pays. On les amène dans une salle d'interrogation assez particulière et, ben, avertissement, l'extrait qui suit est extrêmement scatologique.
Fait que lui, ils l'ont fait aller sa selle. C'est une selle vitrée, puis c'est
pardon?
Des selles. Oui, oui, c'est un siège. Tu t'assises, c'est une toilette, puis il y a comme un tapis avec une chaîne de même qui descend les excréments. Puis ils ont deux mains de même, puis ils frottent le caca pour voir s'il y avait y a pas de...
Quoi? J'ai jamais entendu parler de ça. C'est donc bien dégueulasse, la pire job.
C'est dur, ouais,
fait que ces gens-là fouillent du caca.
Oui, ouais, c'était y a du caca dans
le toi, tu
salles.
Fais caca devant tout le monde.
Devant eux autres, ouais.
Arc.
C'est dur.
Comme tu as vu cette machine-là, là, c'est pas une légende urbaine?
Ah, je l'ai vu. Oh, je l'ai vu. À Pearson, il y a la machine. Oui, là, la machine. Lui, il est allé. Là, après ça, moi, je suis allé, je dis non, je suis pas capable. Mais moi, en m'assisant, j'avais comme mes doigts, mais je la sentais, la ballonne qui était sur le bord de tomber, là.
Ouais.
Puis que là, moi, je dis non, je suis pas capable, pas capable. Que, si, c'est ça, enfin, je chiais le monde, puis là, je pète une coche. Tabarnak, vous êtes pas. Si, vous êtes pas humain, si. Pourquoi faire ça? Puis là, moi, je joue le jeu, là, tu comprends, là. Je dis, hey, je les connais pas, eux autres, moi, tabarnak. Pas de ma faute, j'ai acheté mes billets après eux autres. Et en tout cas, là, l'autre, il est allé aux toilettes. Mais il a chié, mais un astuce. Moi, quand j'ai foncé les vitres, là, en entour, là, pour regarder, ils sont bien bibés de marbre, là. Il a chié, là, en flux, là, tu sais. Moi, j'étais crampé. Ah, il a ouvert ma porte, il a dit, mon pays, mon billet d'avion. Il dit, ah ouais, des calices, des crises, tu sais, ah ouais, tout ça. Aïe, le gars, il m'a sauvé la vie.
Ah! Écoute. Moi, ce qui se passe à l'intérieur du corps des gens, là, ça me... J'ai pas tendance à lier ça au sujet de narcotrafic, alors que, tu sais, dans le fond, au fond,
c'est une réalité
toujours
très
lié,
présente.
C'est
oui.
Toujours lié au narcotrafic. Tu sais, ceux qui commencent, ben souvent, ça se passe à l'intérieur.
C'est tout un parcours de vie que j'ai eu.
Ouais, hein?
Ouais.
Il y a beaucoup de psychologie derrière tout ça, de théâtre même, je dirais, parce qu'il faut savoir comment agir, oui, avec les douaniers, mais aussi comment se comporter quand on fait affaire avec les plus grosses organisations criminelles du monde. Genre, même quand Stéphane se retrouvait dans des situations complètement dingues, il devait rester calme et cool. C'était pas des voyages touristiques.
Ouais. C'est quoi la chose la plus fucked up que t'as vue?
La plus fucked up, c'est quand je suis arrivé au Mexique que je t'ai compté. L'autre, c'est quand j'ai vu 110 arpents de potes en Jamaïque. Je suis arrivé, mon contact m'a amené, il m'a mis une tuque sur la tête. J'ai fait une demi-heure de voiture dans un champ. Je suis allé voir un champ de cannabis, là, comment ils produisent le hash, puis comment ils font le hash, la plantaison. Puis quand je suis allé au Mexique, une fois, il m'a amené dans les montagnes, puis j'ai vu comment ils fabriquaient la cocaïne. C'est malade. C'est malade.
C'est comment?
Ah, c'est fou, là. Ils sont malades. Ils sont en brassière et en caleçon, là. Comme dans les films, là. Pour quand ils font de la cocaïne, puis ils ont eu une soupe blanche, là. Vraiment, là. Puis la cocaïne, là, comment qu'elle produit avec du nafta, puis c'est capoté, là. Puis, ils ont eu des produits chimiques, c'est malade, là. C'est des affaires que vraiment. Moi, ça m'intriguait. J'étais curieux. Mm. Je voulais savoir comment, c'est quoi, c'est. Quasiment, la personne qui était avec moi, à un moment donné, m'a donné un coup de coude. OK, ferme ta gueule, on va se faire tuer. Là.
Pourquoi ferme ta gueule?
Comme toi, en savoir. Là, ouais. Aussi, là, des curieux, là, ils vont penser qu'on est des doubles. Aussi.
Mais après avoir vu ça, t'en mettrais-tu dans ton nez? Là?
Non.
Non?
Non.
C'est dégueulasse?
Oh non. C'est fou. La pire affaire, c'est de la mettre en phétamine.
Comment ça?
Le cristal meth, c'est malade. C'est dégueulasse. Il y a du drano. L'essuie-glace.
Bon, faut faire la lumière un peu sur le passé carcéral de Stéphane Galarneau puis son passé criminel, parce que quand on dit qu'il a passé la moitié de sa vie utile en prison, c'est vrai. Exemple, en 2005, introduction par effraction, séquestration. Vol en 2012. 2014, conduite dangereuse. Et là, 2016, il s'est fait prendre avec 10 000 pilules de speed. Donc, c'est juste pour te montrer que c'est vraiment, quand on dit un criminel endurci, un criminel de carrière, il y a un parcours carcéral à travers ça. Lui, il est quasiment plus habitué de vivre enfermé que de vivre dehors.
Mais il se décrivait comme carcéral. Il dit ça devient un état d'âme à un moment donné.
Exact.
Mais même en prison, il n'était pas toujours sage. Il m'a décrit comment le commerce continuait par drone.
Mais les drones, là, c'est la fléau. Là.
Ouais, hein?
Ils ont fermé les cours là, de Dona. Là. Il y a trop de drones. J'avais une équipe, j'avais un téléphone cellulaire en dedans. Puis moi, je passais ma commande à la personne dehors. La personne dehors, elle mettait le stock que je disais. J'apportais ça à la personne X. Ça passait tout par GPS. Je le voyais en 3G live. Je le voyais dropper. Là, je flashais ma lumière. Quand je flashais ma lumière, le drone me droppait. Les gars, ils se tossaient tous. Je mettais une sandale à terre. Un pied de la sandale, le paquet tombait.
T'sais, en 2016, alors qu'il venait tout juste de sortir de prison, il est toujours en libération conditionnelle, il se pinçait encore.
Est-ce qu'on peut parler de cette histoire-là parce que tu venais de sortir de prison?
Oui.
Quoi, 3 jours plus tard, t'as été arrêté?
Oui, c'est une personne qui est supposément un frère. Ça veut dire une personne de ma patrie, qui était proche de moi.
Un rock machine.
Oui, qui me dit, écoute, j'aimerais ça que tu m'amènes des pelules, tu comprends, puis tout ça. Puis moi, j'ai la main facile. Là-dedans, t'as la main facile. Tu peux avoir ce que tu veux rapidement en claquement de doigts.
Fait qu'il dit, amène-moi 12 000 pilules.
Oui, il dit, j'aimerais ça, moi, 12 000 pilules. T'sais. J'ai dit, OK, c'est correct. T'sais. Ça me tente pas. Il dit, inquiète-toi pas, le frein, garde, c'est pour moi. Esti, viens me le porter, il n'y a pas de trouble avec ça. Une heure avant, il dit, je serais pas capable d'être là. Je suis pas en tout, man, le gros. Mais inquiète-toi pas, je t'envoie mon gars, puis c'est infiable. T'es sûr, le gros, là. T'es sûr, mon frère. Oui, pas de trouble, inquiète-toi pas. Si, pas de trouble, il y a l'argent, tout, pas de trouble, parfait. Pas toujours me souvenir, c'est 10 300$ qu'il me donne. T'sais. J'étais avec ma blonde, j'étais au Saint-Hubert. J'attendais. Puis, m'a donné un texto. Tout, c'est bon, je vais être un pantard, c'est correct. Puis, pendant ce temps-là, mais l'agent double, que je savais pas que c'était un agent double, est arrivé dans le dans le restaurant. Puis là, il m'a dit, ouais, salut, c'est moi. OK, OK, c'est bon, ouais, ouais. Puis qu'est-ce qui m'a alerté un petit peu, c'est quand que j'ai présenté ma blonde. Ma blonde, elle dit jamais son nom, tu sais. Elle a comme un instinct. Puis elle a dit, moi, c'est Madame Cherry, tu sais. Puis là, il a dit, bonjour, Madame Cherry. Un gars du milieu dit jamais bonjour, puis donne jamais la main à la blonde d'un membre.
Qu'est-ce qu'un gars du milieu aurait fait?
Tu sais, salut.
OK.
Enchanté.
Pourquoi tu n'es pas censé donner la main à la blonde?
Bien, tu sais, c'est comme, pourquoi tu donnes la main? T'sais? Tu t'en viens voir moi. T'sais?
C'est juste comme une
petite calice de la fille. Tu n'as pas besoin de parler à la fille. Moi, quand je vais voir un gars, un frère ou quelque chose, tu sais, moi, la fille, tu sais, je suis pas là pour toi. Je suis là pour mon frère. Je suis là pour venir chercher ce que j'ai besoin de venir chercher.
OK.
Puis là, après ça, j'ai dit, bof, peut-être, tu sais, ça se peut. Peut-être le gars, il est gentleman, il est diplomate. T'sais. Ouais. Mais c'était un peu sceptique. Fait que je suis sorti dehors, j'ai ouvert la valise, j'ai montré le stock, il a regardé le stock, puis tout. Comme il a fermé le stock, j'ai dit, OK, j'ai dit, t'as-tu de l'argent? Il dit, ouais, 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 pas de trouble. Puis j'appelle mon chauffeur, il va venir porter l'argent. Chauffeur, porter l'argent. Comme j'ai fait comme. Oh non, man.
Fait que ton chum qui t'a demandé de faire ça, c'était pas vraiment un chum ou c'était.
Non, c'était pas. C'était un délateur qui travaillait pour la police.
Alors, tu sais, il s'est fait prendre assez facilement, mon Stéphane, dans ça, là. C'est un criminel de carrière. Malgré que, aussi, c'est ça qui arrive dans le milieu criminel, là, c'est que t'as la chance ou la malchance, souvent, de tomber sur un délateur, puis ça peut arriver comme assez fréquemment, parce que il y en a qui sont prêts à vendre leurs amis pour pas aller en prison, parce que c'est... Tu sais, il y a une expression que les criminels disent toujours... If you can't do the time, don't do the crime.
Mm.
Il y en a qui sont pas capables de faire le temps en prison. Donc, il y a mieux faire de la délation.
Ben, je lui ai demandé pourquoi lui pensait que cette fois, c'était vraiment la fin de sa vie dans le monde de l'illégalité.
Mais là, est-ce que tu as peur de retomber là-dedans maintenant? Comme, me semble, ça a été facile de te convaincre de quand tu as fait les pilules, loin. Comme si quelqu'un t'appelait genre demain pour la même chose.
Non, je veux rien savoir.
Non? C'est fini,
Cette shot-là, c'est plate, mais c'est un mal pour un bien, parce que c'est cette shot-là qui m'a fait comme dire, OK, c'est assez. Tu sais, ma famille est tannée de me voir en dedans, tu sais.
Ouais.
Elle est écœurée de me voir dans ce milieu-là. Elle est tannée, tu sais. Oui, il y a des moments de gloire, mais il y a beaucoup de moments sombres, tu sais, dans ce milieu-là. Puis je suis tannée. Je suis tanné de regarder au-dessus de mon épaule, voir s'il n'y a pas quelqu'un qui va me viser avec un gun, ou si la police vient pas m'arrêter pour X ou telle raison que j'ai faite, ou je suis écœuré de ce monde-là. Je suis tanné de cette vie-là. Tu sais, j'ai vraiment fait le pas en 2013, le 26 décembre 2013 exactement. J'étais dans ma cellule, puis mon gars, il me parlait plus. Mon plus vieux, il me parlait plus.
Il a quel âge, ton plus vieux?
Il a 23 ans. Il me parlait plus parce qu'il disait, « Papa, tu me dis à moi de suivre le chemin droit toute ma vie. » Puis j'apprends par les journaux, parce que quand je me suis fait arrêter pour une transaction de 12 000 méthamphétamines, j'ai passé dans le journal.
Ouais.
Puis c'est là qu'ils ont dévoilé que j'étais un membre en règle.
Ça, c'était inconnu avant?
C'était inconnu. Puis là, mon gars, il dit, « Tu me mentis, tu voulais que je suive un bon chemin toute ma vie. » Toi, t'es un membre en règle. Il l'a comme pas accepté.
Ouais.
Puis même mon plus jeune, mon ex, que je m'entendais pas bien avec, a montré la photo à mon plus jeune, qui aurait pas dû faire ça, mais elle l'a fait. Il avait 8 ans. Puis il a dit, mon père, il aime mieux faire des conneries que venir me voir, tu comprends? Ça m'a touché, ça a venu me chercher beaucoup. T'sais. Puis c'est ça.
Qu'est-ce que tu ferais? Apprenais que ton fils tombait là-dedans, là, si ton fils décide que lui aussi il veut suivre tes traces?
Ah. C'est une question que je me suis posée. C'est sûr que je vais être là pour l'aider. C'est sûr que je vais être là pour l'épauler.
Mais l'épauler,
je veux pas l'épauler sur le bon chemin. Pas l'épauler en lui donnant des contacts.
Okay.
L'épauler en le réveillant bien comme il faut. Là. Mais je pense que, avec toute la peine qu'il y a eu à me voir où je suis, je pense que. J'espère que ça va le réveiller pour pas qu'il suive le même chemin. Moi. C'est ce que je souhaite le plus au monde.
Bon, la réinsertion, la réinsertion, la réinsertion. moi, c'est un concept qui est assez abstrait pour moi. Comment tu vois ta réinsertion? Comment tu peux prétendre amener une vie comme normale en absence d'un milieu qui te faisait faire, tu sais, de l'argent comme de l'eau, là? Vraiment, c'est un challenge de tous les instants. Pour moi, c'est j'imagine que ça va être difficile pour lui.
Mais tu sais, faire une entrevue avec les médias, c'est une façon un peu dramatique de claquer la porte. Puis je voulais savoir si ça le mettait en danger.
Faire cette entrevue-là, c'est comme tourner la page.
Ouais.
T'sais, après, là, c'est fini.
Est-ce que tu penses que ça va fâcher des gens, t'entendre parler comme ça?
J'ai pas incriminé personne. J'ai pas parlé de personne. C'était mon but premier de pas... pour pointer personne, tu sais, pas nommer de nom, pas rien. Juste raconter l'histoire de ma vie un peu, tu sais.
Ben, moi, il y a une chose que je pense là-dedans, puis, tu sais, c'est très engageant de faire une entrevue avec nous autres comme ça, parce que, au fond, ce qu'il fait, c'est que il s'engage à un très large groupe, un large auditoire à suivre le bon chemin. Donc, peut-être que ce qu'on est en train de faire là avec lui, ça va lui mettre une pression supplémentaire en disant « Ben là, c'est pas juste à mon agent de libération que je l'ai dit. Là. Je l'ai dit à Brigitte, je l'ai dit à Félix, puis là, guess what, maintenant, je l'ai dit à sur Narcos PQ. »
La chose la plus importante, c'est que je veux faire passer le message que la criminalité, c'est pas un chemin. C'est pas un chemin pour la réussite. C'est pas le chemin le plus facile pour gagner sa vie, tu comprends? Mais je peux dire, c'est le show, tu comprends? C'est un show, tu comprends? Ouais. Je veux dire, c'est ça que c'est. Mais c'est pas un chemin à prendre, tu sais. Chaque personne, chaque jeune, faut qu'il comprenne que c'est pas un chemin à prendre. Tu sais, j'ai vécu riche, j'ai vécu au sommet, au top, puis j'ai vécu vraiment, là, en mangeant des toasts avec du beurre puis du sucre, là, tu sais, pour me nourrir, tu sais. J'ai vécu les deux paliers, moi, je dirais, là, j'aime mieux être pauvre qu'être riche. Parce que pauvre, t'es heureux pareil. T'sais. T'as ta famille. T'sais, l'amour, là, t'es pas obligé d'être millionnaire pour avoir l'amour, tu comprends? T'sais, j'ai une conjointe là, qui m'aime, qui tient à moi. J'ai une famille qui m'aime. T'sais, là, c'est différent parce que là, je le fais pas pour les autres. Là, je le fais pour moi. C'est pour moi que je le fais là, pour la première fois de ma vie. T'sais.
La semaine prochaine, à Narcos PQ, tu vas aller parler à quelqu'un qui avalait des capsules d'héroïne.
Oui, c'est sûr. Passer des années dans une prison tropicale.
La folie qui passe dans ton estomac aussi, mais dans ta tête, c'est incroyable. Jusqu'à temps que tu prends la décision de commencer. C'est difficile. C'est ultra difficile. Juste briser le blocus mental, d'avaler quelque chose de gros et de ne pas le mastiquer. C'est incroyable.
Puis 100 fois.
100 fois. 100 fois.
Aïe, aïe, aïe. T'as vraiment une drôle de vie.
Toi, pareil.
Seulement à Narcos PQ.
Si vous aimez ce balado, n'oubliez pas de vous abonner. Vous pouvez aussi suivre le Bureau d'enquête de Québécois sur Facebook ou nous lire dans le Journal de Montréal. Animation et recherche, Félix Séguin et moi-même, Brigitte Noël. Mix sonore, Philippe Séguin.
Réalisation et montage, Bastien Gagnon La France et Anne-Sophie Carpentier.
La série Narcos PQ est une coproduction du Bureau d'enquête de Québécois et de Cube Radio.